midi 13h. À votre santé, votre magazine santé avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS à votre santé, bonjour et bienvenue. On parle de votre santé tous les jours sur Beurre FM. Et je reçois aujourd'hui le docteur Olivier Dubois. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et vous dirigez l'établissement thermal de Saint-Jean en Charente-Maritime, qui est une station de référence pour la prise en charge des troubles psychiques. Et vous publiez chez Flammarion « Thermalisme, voie de guérison naturelle ». Alors, c'est vrai qu'on a du mal à associer, et on n'associe pas toujours le thermalisme et la psychiatrie.
Oui, à tort, parce que quand on regarde l'histoire de la médecine, on s'aperçoit que déjà du temps d'Hippocrate, 450 ans avant Jésus-Christ, qui est un médecin grec très connu, eh bien, ce même Hippocrate le prescrivait beaucoup dans les troubles anxieux, considérant que c'était d'ailleurs une des meilleures indications pour créer justement cette détente, ce relâchement qui était déjà difficile à obtenir chez les Grecs de l'Antiquité.
Alors, pour expliquer un peu plus qui vous êtes dans votre famille, on est médecin psychiatre depuis 5 générations.
Exactement.
Il y a un gène, comment ça se passe?
C'est une hypothèse. Mais j'ai pas la réponse absolue, mais c'est une hypothèse. Il y a peut-être aussi une transmission par l'expérience et le vécu familial. Mais c'est vrai que mon arrière-grand-père était médecin. Il a fondé l'établissement thermal. Ça a suivi de père en fils. Et depuis 3 générations, nous sommes tous psychiatres. Et ça nous aide aussi à être bien insérés dans le milieu de la psychiatrie. Parce que, voilà, ce thermalisme dans le milieu de la psychiatrie est bien connu grâce à notre histoire. On a pénétré ce milieu de la psychiatrie depuis une centaine d'années.
Et puis les thermes donc sont dans votre histoire familiale depuis 1860.
C'est ça, exactement.
Bon, moi je ne savais pas qu'on soignait les troubles psychiques par des cures thermales. Hein. Je l'ai appris en lisant votre livre. Alors dans votre livre, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, vous n'abordez pas les cas de psychiatrie les plus lourdes, mais vous abordez les cas, on va dire, les plus fréquents, celles qu'on rencontre chez la majorité d'entre nous, hein, les psychoses et les troubles dépressifs, anxieux, les boulimies, enfin voilà. Tous les troubles des sociétés d'aujourd'hui, on va dire.
Oui, c'est ça. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a, de tout temps eu des grandes maladies mentales, des schizophrénies, des troubles bipolaires, qu'on appelait la psychose manico-dépressive. Ça représente à peu près chacune de ces pathologies, grandes pathologies, 1% de la population générale. Aujourd'hui, il y a une croissance.
Ce qui n'est pas énorme. Vu le temps qu'on y consacre et la consommation de médicaments par les Français, c'est pas
mais
énorme.
Mais ça, c'est les troubles, je dirais, habituels. Mais aujourd'hui, il y a une croissance importante des nombres de cas de psychiatrie plus légère qui sont des dépressions essentiellement, des burn-out ou des états d'anxiété chronicisés qui sont, effectivement on peut le dire, des maladies de la nouvelle société, ces gens qui ont des douleurs, des plaintes un peu permanentes qui consomment.
Vous consacrez pas mal de pages à la fibromyalgie dans votre livre. Les petits coups de mou, les coups de blues.
Oui, la fatigue chronique est une maladie, une véritable maladie. Hein. Les gens sont très gênés, c'est un handicap. Et donc notamment un trouble anxieux généralisé, qui est un trouble qui associe anxiété physique et psychique, qui associe également irritabilité, trouble de concentration, trouble de la mémoire, et puis également cette fatigue dont on parlait à l'instant.
Bon, vous allez au-delà dans votre livre, puisque vous le faites valider et vous le mesurez, et vous avez mis au point une unité de mesure, une étude qui permet de mesurer des effets de la médecine thermale sur ces troubles-là. Comment est-ce que vous définissez la médecine thermale? Vous savez, ça fait très médecine thermale, ça fait très supplément du Figaro.
Oui.
De temps en temps, vous savez, ces petites médecines de confort pour les gens qui n'ont rien, qui finalement partent 3 semaines en cure aux frais de la société et surtout de la sécurité sociale.
Mais ça peut être ça, le thermalisme ou ce qu'on appelle plutôt la thalassothérapie. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le bien qu'on se fait quand on est un peu fatigué, quand on est quelqu'un de normal et qu'on a besoin de se reposer un week-end. C'est tout à fait acceptable et ça n'a rien de scandaleux. La seule chose, c'est que c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Ce qui est remboursé par la sécurité sociale, ce sont les prises en charge médicales, c'est-à-dire des gens qui ont un état de pathologie. Alors qu'est-ce qu'effectivement?
Alors on a tous autour de nous des gens qui font prendre en charge par la sécurité sociale des cures thermalisées, enfin médicalisées, hein, comme on
bien
dit,
sûr.
Parce qu'ils ont un peu mal au lombaire.
Bien
enfin,
sûr,
voilà.
Bien sûr. Ce qui différencie, par exemple, pour l'anxiété, on est tous anxieux. Je pense que vous, comme moi, nous sommes tous les deux certainement des anxieux, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on ne peut pas vivre sans anxiété. C'est pas possible. Mais ce qui nous différencie du malade, c'est parce que le malade, lui, il est dans un état d'anxiété permanent. sur une durée d'au moins 6 mois. Vous voyez, c'est cette dimension-là du handicap et de la durée qui fait que la personne ne peut plus supporter son état. Vous voyez qu'elle est dans quelque chose qui devient intolérable et qui devient vraiment très pénible et très douloureux, qui fait qu'il y a cette consommation médicamenteuse très connue chez les Français, qui a ces troubles du sommeil quasiment permanents.
Alors on n'est plus les premiers, hein.
On est deuxième.
On est deuxième derrière l'Espagne.
Absolument. Mais si vous associez...
En consommation de psychotropes.
Si vous associez les hypnotiques, on est premier à la moyenne générale.
Ah bon? Non. On reste les gros consommateurs. Est-ce que vous êtes en train de dire... vous parlez de l'anxiété. Donc, il y a des gens qui sont pris en charge pour les troubles de l'anxiété. Est-ce que vous leur dites... Moi, ce que aujourd'hui, les soins que j'ai mis en place... Vous faites une cure thermale et vous laissez tomber vos médicaments. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire ?
Alors, pas tout à fait quand même. Honnêtement, pas tout à fait. C'est une hypothèse. Schématiquement, vous êtes dans un état d'anxiété vraiment handicapante. Vous allez voir votre médecin. Vous habitez Paris ou région parisienne. Le médecin va certainement vous proposer un traitement médicamenteux classique, ce qui est normal, tout à fait normal. Mais si au bout de 3 mois, 6 mois, votre traitement n'agit pas ou agit peu ou n'enlève pas tout ou ça ne marche pas ou que vous augmentez les doses, à ce moment-là, il va falloir que le médecin propose une alternative thérapeutique. Et bien sûr, on peut aller voir le psychologue près de chez soi ou le psychiatre, mais à un moment donné, pareil, si on est en échec thérapeutique, il faut trouver une autre solution. Et c'est vrai que la cure thermale a montré qu'elle était, par des études scientifiques, a montré qu'elle était plus efficace encore que les médicaments de référence aujourd'hui pour traiter ces états anxieux. Donc ça devient intéressant. Et l'autre hypothèse intéressante également, ce sont toutes ces personnes qui sont des consommateurs réguliers d'anxiolytiques qui ont la peur d'arrêter parce qu'ils ont essayé, ils n'y sont pas arrivés.
Alors vous expliquez que c'est ce qu'on appelle l'effet doudou de ces médicaments.
Oui.
Donc déjà, on devient dépendant à ces médicaments.
Ça rassure, ça protège, ça endort un peu, mais ça n'enlève pas le fond du problème et surtout ça ne traite pas la cause. Donc c'est vrai que l'histoire de partir en cure et d'être face à soi, face à son histoire, face aussi à un médecin qui va vous parler un peu dans un contexte différent et rentrer dans la prise en charge thérapeutique balnéothérapique, vous allez avoir des résultats qui sont remarquables et qui sont durables.
J'ai dit partir en cure pour un anxieux, ça présente déjà beaucoup d'anxiété.
C'est possible.
En disant, voilà, je partais en cure, je m'ennuyais, de l'eau.
C'est sans doute pas une décision qu'on prend facilement.
Vous voyez, c'est déjà l'anxieux, déjà, va commencer à anticiper tout l'ennui qu'il va en tirer.
L'anxieux, il est chez lui, il tourne en rond, il use son entourage, parce que malheureusement, la famille ne comprend pas, parce que son état est un état compliqué à gérer. Donc il y a une tension quand même dans l'environnement qui fait qu'à un moment donné, la personne sent le besoin de sortir un peu du cadre. Et c'est aussi un élément qui va l'aider à sortir de sa pathologie et de sa situation.
Bien, vous êtes un ancien interne de Sainte-Anne, l'établissement a célèbre réputation, et vous avez vu comment, ce que vous expliquez dans votre livre, le milieu thermal et la cure thermale a du mal à s'imposer dans le milieu psychiatrique aujourd'hui comme traitement alternatif, et comment vous avez du mal à imposer les preuves de son efficacité.
Oui, c'est évident. On peut comprendre, les universitaires de la psychiatrie ne connaissent pas le thermalisme parce que dans leur service hospitalier, il n'y a pas de station thermale. Donc, ils ne la connaissent pas, ils ne l'expérimentent pas, donc ils en parlent avec beaucoup plus de difficultés. C'est vrai que c'est peu enseigné en faculté, de ce fait. Et pour arriver justement, pour tout vous expliquer, moi j'avais fait part de mon expérience très surprise quand j'ai commencé mon activité de médecin, de psychiatre. D'abord, je travaillais dans une clinique privée de 150 lits. Et ensuite, comme psychiatre thermal, je me suis rendu compte de l'effet de la cure au fur et à mesure des années, en voyant ces patients qui revenaient et qui me disaient, mais docteur, dites-le, quoi. Enfin, on est là, on vient vous voir, on considère qu'on a des résultats remarquables, mais personne n'est au courant. C'est à vous d'en parler. Donc, je suis allé voir ces universitaires parisiens de Sainte-Anne que je connaissais et je leur ai fait part de mon constat. On a écrit ensemble un livre. Ce livre a été publié chez Masson et la conclusion du livre, c'était il faut faire des évaluations. Il faut qu'on arrive à prouver ce que vous dites.
Voilà, il faut valider, le mesurer.
Le mesurer. Et c'est ce qu'on a fait.
Et puis aussi, savoir sur combien de temps ça a des effets.
Absolument. Donc on a fait une étude très sérieuse où on a, comme pour un médicament de référence, on a comparé justement un médicament de référence de l'anxiété généralisée, ces troubles anxieux donc, et on a regardé 2 mois et à 6 mois. Alors à 2 mois, on a eu...
Les tubes, c'est celle qui s'appelle Stop Tag.
Ouais, d'accord. Stop Tag, c'est ça. Oui, elle a été publiée en 2010 dans une revue américaine. Donc elle a montré que sur 237 patients, ce qui est une très très belle étude, on a eu 44% d'effets supérieurs par rapport aux médicaments de référence 2 mois après la cure. Vous voyez, donc on a, c'est-à-dire que si vous
êtes... Si vous prenez un patient qui aurait été traité pendant 2 mois avec ces médicaments, il y aurait eu les mêmes effets que la personne qui va en cure 3 semaines, 2 mois après, c'est ça?
Oui, c'est pas tout à fait les mêmes, puisque là, vous avez 44% de plus d'effets supplémentaires. Grossièrement, si vous avez 10 points de gagné avec le médicament, vous en avez 14,4 gagnés avec la cure. Donc c'était un résultat très très marquant. Et quand on regarde à 6 mois, eh bien on s'aperçoit que les patients étaient encore améliorés de 49% par rapport au point de départ. Donc ça a été une étude extrêmement puissante pour montrer aux universitaires la réalité de cet impact thérapeutique.
C'est que quelque chose qui revient souvent quand on parle de cure thermale, c'est l'effet placebo.
Alors, l'effet placebo...
Comment est-ce que ça vous contournez vous arrivez à mesurer l'efficacité et répondre à ces accusations de placebo?
Oui, d'abord, le terme placebo n'est pas un terme qui me met mal à l'aise, parce que je pense qu'en médecine, l'effet placebo est un vrai traitement. Et vous voyez, quand on...
Plus qu'on le pense.
Quand on dérembourse tous les traitements anti-Alzheimer, bon, très bien, c'est possible qu'ils ne soient pas efficaces, mais ça enlève tout espoir aux gens de guérir. C'est un problème psychologique qui n'est pas anodin. Donc je crois que l'effet placebo n'est pas quelque chose qu'il faut exclure de la réflexion médicale. Après, l'effet placebo existe en médecine, on l'a évalué dans de très nombreuses études et on s'aperçoit qu'il donne des résultats de 25 à 30% dans toutes les études, mais surtout cet effet n'est pas durable. Vous voyez, il marche pendant un mois, pendant 2 mois et après il s'effondre, mais de manière extrêmement brutale. Et donc on n'a pas du tout cette même courbe.
Même si on continue à prendre le traitement.
Oui, même si on continue à prendre le traitement, très souvent, il y a un effondrement de l'effet placebo au cours du temps. C'est très reconnu dans les études comparatives entre les antidépresseurs et le placebo. Les écarts ne sont pas toujours énormes au départ, mais au fur et à mesure du temps, ils s'agrandissent de manière très importante.
Donc, les résultats de votre étude arrivent-ils à convaincre, on va dire, vos confrères?
Ah oui, je dis pas que tous les confrères sont convaincus, bien évidemment, parce que c'est difficile quand vous sortez d'une faculté et que vous n'avez pas été formé à cette médecine, vous avez forcément des questions à vous poser. Et je dois dire que, évidemment, comme j'en parle pas mal et que je fais des conférences, on voit vraiment deux types de personnes, et même trois. Il y a ceux qui sont aussi convaincus que vous, de cette médecine nouvelle, naturelle, tout à fait dans l'air du temps, qui correspond parfaitement à des patients qui le suivent depuis des mois et qui se plaignent beaucoup de symptômes très variés, qu'ils ont du mal d'ailleurs à identifier eux-mêmes. Et puis, il y a ceux qui sont effectivement hostiles parce qu'ils sont plus pour une médecine biologique, une médecine médicamenteuse. Et on sent que voilà, il y a deux regards très différents.
Le docteur Olivier Dubois est avec nous aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son livre chez Flammarion. Il s'appelle « Thermalisme, voie de guérison naturelle », sous-titré « Stress, sommeil, fatigue, dépression, burn-out, une alternative aux médicaments ». Et on en parle aujourd'hui sur Beurre FM.
À votre santé, reviens dans un instant.
Une alternative aux médicaments dans les maladies psychologiques. On en parle aujourd'hui avec le docteur Olivier Dubois. Vous publiez « Thermalisme, voie de guérison naturelle » aux éditions Flammarion. Donc vous êtes psychiatre de métier, mais vous exercez votre activité dans un institut thermal qui est familial. D'ailleurs, vous traitez combien de personnes par an?
Alors en cure thermale, on traite 4300 curistes à peu près par an.
Et vous avez un certain nombre de lits qui sont réservés donc aux personnes qui souffrent de pathologies psychiatriques.
Alors à ce jour, on a vraiment deux activités très différentes. On a les curistes qui viennent, qui sont des gens qui sont en cure libre, c'est-à-dire qu'ils s'hébergent à l'extérieur et viennent le matin en soins, donc ça dure 2 heures à peu près les soins. Ils reçoivent des massages, des bains, des douches, des soins en piscine tous les jours. Ils ont des entretiens médicaux hebdomadaires, mais c'est totalement autonome. Et on a effectivement des lits hospitaliers, une clinique psychiatrique de 150 lits qui se situe à proximité et où on fait de la psychiatrie générale. On trouve des dépressifs, des bipolaires beaucoup et des troubles anxieux.
Alors, on a parlé des traitements tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut dire que la cure thermale est une alternative à l'hospitalisation dans un établissement psychiatrique?
Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là. On reprend l'idée d'un patient anxieux, chronique, qui est en échec thérapeutique avec un anxiolytique, avec un antidépresseur, qui dort mal la nuit, qui a du mal à se concentrer, qui arrête son activité professionnelle, ou pas d'ailleurs, mais qui est en difficulté importante, et il cherche une solution. Aujourd'hui, d'une manière générale, on va lui proposer une hospitalisation. c'est vraiment là une alternative. C'est-à-dire que plutôt qu'hospitaliser une personne qui est en difficulté mais qui n'est pas un grand malade, entre guillemets, qui n'est pas dans un état de détresse absolue, au bord du suicide ou dans un état de délire, eh bien, il est absolument certain que cette médecine, qui est une médecine, je dirais, institutionnelle, c'est-à-dire où on prend en charge les gens, vous voyez, sur une durée longue. Hein, c'est différent de la médecine ambulatoire, qui est une médecine de proximité, mais qui est un peu régulière, mais qui est un peu espacée. Là, on a une médecine vraiment sur 3 semaines. Et cette médecine de 3 semaines, elle permet aux gens d'être dans un contexte beaucoup moins régressant et beaucoup moins stigmatisant que l'hospitalisation qui est, elle, évidemment, qui confronte les gens à des pathologies plus sévères, à des contextes beaucoup plus difficiles. Eh bien, cette médecine thermale est tout à fait adaptée à ces pathologies intermédiaires qu'on rencontre de plus en plus souvent, il faut le reconnaître.
Alors, ça fonctionne sur quelles pathologies?
Les troubles anxieux, les troubles du sommeil.
Qu'ils soient sévères ou pas?
Les troubles anxieux, troubles du sommeil sévère.
Ouais.
Les troubles dépressifs, mais réactionnels. C'est-à-dire à des états de... Vous voyez, un trouble anxieux qui est chronique, au bout de 5 ans, 80% des anxieux vont faire de la dépression. C'est démontré dans les études. Donc on sait que ces états dépressifs, qui sont des états d'épuisement, hein, des états de fin de cycle, si je puis dire, eh bien, sont des états qui peuvent également bénéficier d'une cure thermale. Mais certainement pas des dépressions majeures, des dépressions suicidaires, qui ne sont pas du tout indiquées, puisque là, il faut hospitaliser les personnes. Mais je pense également au burn-out, qui est une très bonne indication. Voilà. Après, il y a les douleurs chroniques quand ils sont pas, quand on est sûr qu'on n'est pas.
Et on parlait de la fibromyalgie tout à l'heure.
Fibromyalgie, absolument, qui est une très bonne indication également. Et la fatigue chronique, bien sûr.
Justement, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont atteints de fibromyalgie. Qu'est-ce que vous conseillez à l'entourage de quelqu'un qui justement fait une fibro?
Alors, tout dépend de la demande, mais ce qui est certain, c'est que les fibromyalgiques, le problème qu'ils ont, c'est que leur maladie, ils le disent, elle n'est pas visible. Donc, on a du mal à comprendre, c'est vrai pour toutes les maladies psychiques d'ailleurs, on a du mal à comprendre ce que ressentent vraiment les gens. Donc, il y a toujours une tendance de l'entourage à dire, enfin bon, tu fais des efforts, remue-toi, tu pourrais sortir un peu de ta chambre, etc. Donc, il y a des reproches. Non seulement vous avez une maladie à vivre et à supporter, mais en plus, vous avez les reproches.
Il y a le déni de l'entourage.
Oui, ou la non-compréhension, donc le rejet, la culpabilisation. Donc c'est vrai que c'est des situations qui sont difficiles à vivre aussi pour le patient, qui finit par en souffrir doublement, hein, à la fois sur un plan personnel, physique, et puis aussi sur un plan psychologique, d'environnement, de relations. Donc c'est vrai que là encore, les cures sont très adaptées, parce qu'elles permettent aux gens de sortir du contexte. Je crois que cette dimension, vous voyez, encore une fois, je reprends le mot institutionnel, c'est-à-dire d'environnement médicalisé, où on a le temps de vraiment poser les choses, on a le temps d'avoir des échanges, où le patient a des contacts avec différentes personnes, vous voyez, du cadre médical. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est très utile en termes de santé. Vous voyez, vous parlez du placebo. Bon, ça, c'est pas du placebo, c'est un effet thérapeutique de système. Vous voyez, c'est un effet thérapeutique d'ensemble qui vient de la diversité des acteurs de soins et de nombre de contacts que les gens ont et qui leur permettent finalement de se rendre compte que leur pathologie est une vraie pathologie. Le fait aussi, par exemple, que les patients rencontrent d'autres patients qui ont des problèmes comparables à eux. Certains vont beaucoup mieux, certains ont guéri, certains sont en pleine phase évolutive. Ça permet des échanges qui sont très intéressants également.
Sur la fibromyalgie, la question est de savoir si, après la cure, les douleurs ont disparu et ne reviennent pas.
Alors, c'est une bonne question. D'abord, rarement les douleurs disparaissent totalement dans cette maladie. Rarement elles disparaissent totalement, je dis bien. Par contre, vous voyez, dans notre étude que nous avons menée sur les patients que nous suivons, eh bien, on a eu 50% de patients qui étaient encore améliorés 3 mois après la cure. Et je vais vous expliquer une chose qui est très importante et que je dis aux patients. Vous savez, quand vous avez une douleur à 7 sur 10, c'est intolérable. Quand vous avez une douleur à 4 sur 10, c'est beaucoup plus tolérable. Et c'est un peu ça qui se passe, si vous voulez. Alors, le 4 sur 10, il doit se prolonger. Si ça dure 3 jours, ça n'a pas d'intérêt. Mais là, dans la cure, on a à 3 mois des résultats qui sont très, très significatifs sur l'amélioration des douleurs.
Donc, c'est important. Sans médicaments?
Alors, l'idée aussi de ces patients-là, c'est non seulement de ne pas prendre plus de médicaments, mais c'est d'en prendre moins, évidemment. Alors, sans médicaments, peut-être pas. Mais
si
en
vous
tout
me
cas,
dites
en
moins, réduisant... c'est qu'il y en a.
Oui, il y en a souvent. Là où on a le plus sevré nos patients, ce sont les anxiolytiques. Et on a obtenu sur les sevrages anxiolytiques, d'ailleurs c'est un stage qui aujourd'hui est remboursé par la Sécurité sociale à 50%, par la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, pardon, eh bien sur ces stages de sevrage, on a eu 41% d'arrêt complet des médicaments sur une période de 6 mois après la cure, chez des patients qui étaient consommateurs chroniques, c'est-à-dire qui en prenaient depuis 3 ans au minimum. Et on a eu 80% des patients qui ont réduit d'au moins 50% leur consommation, c'est-à-dire s'ils en prenaient par exemple 50 mg, Au bout des 6 mois, ils n'en prenaient plus que 25 mg.
Bon, faites des stages, hein, prévenir le burn-out professionnel, mieux vivre votre fibromyalgie, retrouver son sommeil naturel. Voilà. On commence à s'inscrire à vos stages.
Alors c'est un point important. On a développé l'école thermale du stress, qui est un concept très simple. Hein. Les patients sont sur 3 semaines à Saujon. Donc, on les a, il y en a 4000.
Charente-Maritime.
Voilà, près de Royan. On les a pendant 3 semaines à Saujon, à proximité. Donc, ils ont du temps libre. Ils ont des pathologies tout à fait comparables. Anxiété, fibromyalgie, burn-out. Et bien, l'objectif, c'est bien sûr de les accompagner sur la gestion de leur maladie. Et vous savez, les anxieux, ils ont une particularité, c'est qu'ils pensent beaucoup. Ils sont assez ruminants.
Ah, ils sont en boucle. Hein, ça.
Ils sont en boucle, voilà, ouais, ils ruminent. Bon. Et c'est vrai que ces gens-là, ils aiment bien comprendre ce qui se passe, pourquoi, comment on fait, etc. Et donc, ce sont des personnes qui sont extrêmement intéressées.
Un maximum, c'est de la surinformation en permanence, hein, les anxieux.
Sans doute. Mais ils ont besoin aussi d'être assurés, mais aussi d'être ce qu'on appelle en psychoéducation. C'est-à-dire, on leur explique la maladie, on leur explique le danger justement de réfléchir en boucle, on leur explique l'importance de sortir de la pensée et de penser au temps présent et non plus au temps passé ou au temps à venir. Et il y a toute une information comme ça qui leur est inculquée, comme une formation d'ailleurs, qui leur est donnée pendant ces séjours.
Alors, la prise en charge thermale dans les maladies psychiques, ça consiste en quoi? C'est quoi qu'on vous fait? Des douches, des bains bouillonnants, quels sont les soins que vous sélectionnez?
En fait, il y a 4 soins traditionnellement prescrits dans les troubles anxieux. C'est les bains bouillonnants qui durent 10 minutes tous les jours, les massages sous l'eau qui durent 10 minutes tous les jours, les bains en piscine, et puis les douches thermales qui sont des douches avec un jet puissant.
D'accord. Est-ce que ce sont des soins qui sont spécifiques à ces pathologies ou alors ce sont les mêmes soins qu'on appliquerait ailleurs?
Ah, ils sont spécifiques, ils ne sont pas extrêmement différents hein, d'autres spécialités, mais ils sont spécifiques. Ce qui est très net, c'est que les bains bouillonnants et les massages sous l'eau qui sont faits à température un peu chaude sont les soins les plus sédatifs. C'est souvent ce qu'on cherche. Parce que les anxieux, ils ont du mal à se détendre, ils ont du mal à se relâcher. Donc ce qu'on veut, c'est qu'ils
arrivent
à lâcher prise. Ils ont du mal à lâcher prise. Et voyez, je vais vous faire une confidence qui est assez récente, même si je l'avais en tête depuis quelques temps. Ce que j'ai remarqué dans mon activité, c'est que les gens, quand ils lâchent prise pendant la cure thermale, et je m'exprimerai sur ce terme de lâche prise, eh bien, j'ai remarqué qu'ils étaient toujours contents de leur cure et toujours améliorés l'année suivante, quand on les revoit. Quand ils lâchent pas prise, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas contents de leur cure. Donc j'ai fait ce parallèle. Et l'année dernière, on a fait une étude qui a été sur 30 patients. On a eu 3 groupes. Ceux qui ont lâché prise tout de suite, ceux qui ont lâché prise en fin de cure et ceux qui ont lâché prise pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout lâché prise, excusez-moi. Donc il y a eu 3 groupes. Et le groupe qui n'a pas
c'est-à-dire
du tout.
Quoi, ils étaient résistants,
ouais, ils étaient résistants. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à se détendre pendant les soins.
Ils étaient résistants, ouais, ils n'y croyaient pas.
Ils n'arrivaient pas à se détendre. Ils n'étaient pas relâchés pendant les soins, pas du tout. Ou très peu. Et il y avait une échelle de 0 à 5. Et il fallait être au-delà de 4, 5 pour être totalement lâché. Et jusqu'à l'endormissement même. Lorsque les gens n'ont pas lâché prise, à 4 mois, leurs symptômes n'étaient pas améliorés. Ils étaient même un petit peu aggravés, 2%. Quand les gens ont lâché prise en deuxième moitié de cure, c'est-à-dire à partir du 10e jour, eh bien, les symptômes étaient améliorés de 24%. Et quand ils ont, à 4 mois, et quand ils ont lâché prise dès le début de la cure, dès la première partie de la cure, ils ont été améliorés au niveau des symptômes de 52%. Et cette petite étude, hein, qui sur 30 patients, ce n'était pas une grosse étude, ce n'est pas une étude qui va marquer l'histoire de la médecine, mais elle est très révélatrice. Parce qu'elle est déjà puissante, avec très peu de malades, elle est puissante, donc on va la refaire à plus grande échelle, et elle va montrer combien cette notion de cette capacité à se détendre complètement dans un soin sans penser justement, sans être dans la rumination, est un traitement fondamental. Pour moi, c'est révolutionnaire, parce que jusqu'à présent, on a toujours traité les malades soit par de la chimie ou par de la pensée. Et aujourd'hui, on est en train de démontrer par cette étude que les malades doivent aussi se traiter par l'inaction. Voyez, et dans notre société, l'inaction, c'est quelque chose qui est quand même compliqué.
Quel usage faites-vous de l'hypnose? Dans votre traitement en cure thermale, est-ce que vous l'incluez ou c'est à part?
Alors malheureusement, ce sont des soins, comme d'ailleurs la psychoéducation, qui sont des soins à part, parce que, comme vous l'avez compris, on en a parlé, la cure thermale est conventionnée, elle est prise en charge par la sécurité sociale, mais uniquement pour les soins thermaux. Donc tout ce qui n'est pas soins thermaux n'est pas conventionné, donc il n'y a pas de remboursement.
D'accord, donc qu'est-ce qui reste à la charge du patient?
Le patient, eh bien lui, il lui restera, quand il fait ses stages psychoéducatifs, le stage coûte 250 euros, par exemple, sur 3 semaines, 160 sur une semaine. et il lui reste l'hébergement également à sa charge. Mmh. Et s'il veut faire de l'hypnose, pareillement, il aura effectivement une séance qui dure généralement une heure et qui doit coûter 35 euros parce que chez nous, on fait des prix assez bas, exprès. Parce que dans la convention avec mes thérapeutes, je tiens à ce que les patients soient dans des conditions améliorées.
Donc, un protocole de soins qui repose donc sur quatre types de soins.
Oui,
thermo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans une cure?
Après, vous pouvez accéder. Alors, on a fait des conférences pour les patients, donc des conférences sur toutes les thématiques que vous imaginez, de façon très, 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 très large. On fait évidemment des ateliers physiques de sport adapté. On fait des ateliers de peinture, de modelage. On fait également des ateliers de relaxation, on fait du Qigong, enfin un certain nombre de choses quoi, je ne vais pas tous vous les citer. Parce que
non, mais c'est intéressant de voir comment vous travaillez. Alors là, on est sur une base de 3 semaines, c'est ça?
Oui, les gens viennent 3 semaines en cure, et c'est ça. En cure thermale. Ils peuvent venir une semaine sur une cure libre, qui se rapprochera plus d'ailleurs de l'esprit thalasso et d'une prise en charge de... Voilà, ou même
mais là, on n'est pas dans la médecine thermale.
On n'est plus dans la médecine thermale.
Ouais, c'est ça.
On est dans le soin pour la personne qui n'est pas en état de maladie, ou très légèrement, ou en prévention.
Vous, comment vous définissez la médecine thermale?
Je pense que ce qui est très important, c'est le mot médecine, qui a été très longtemps oublié. Le thermalisme, ça a oublié le mot médecine. Donc c'est très important d'employer ce terme de médecine. C'est une médecine. Pourquoi? Parce que vous avez quand même toutes les semaines un entretien médical avec un médecin, qui généralement est un psychiatre quand vous êtes à Saujon. Parce que c'est vrai qu'on a 10 psychiatres sur Saujon. Et puis parce que également, donc vous avez des consultations, des révisions thérapeutiques, des conseils par rapport au sevrage de médicaments. Par exemple, les patients qui veulent arrêter sa consommation médicamenteuse ou la réduire, chez nous, il peut le faire parce qu'on a les compétences pour accompagner le patient dans sa réduction. Et puis, on a également donc, ces entretiens psychologiques individuels qu'on peut proposer dans le cadre de l'école thermale du stress que nous avons développée. Vous avez effectivement la capacité d'avoir des entretiens individuels qui sont également des entretiens qui peuvent être assez fréquents pour les patients qui en ont vraiment besoin.
Voilà, la médecine thermale.
On a donc trois semaines pour prendre en charge le patient complètement, à la fois sur le plan de sa symptomatologie anxieuse, de ses symptômes douloureux, de symptômes physiques, mais aussi sur le plan de la réflexion psychologique et médicamenteuse autour de sa pathologie.
Docteur Olivier Dubois est avec nous pour parler de thermalisme, voie de guérison naturelle, stress, sommeil, fatigue, dépression, burn-out. Là, vous êtes quand même sur des pathologies de société dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et c'est aux éditions Flammarion.
À votre santé, reviens dans un instant.
À vous, le propriétaire d'une Dacia, l'exigeant, le réaliste, le rusé, le fan de bons plans. Vous avez le choix lors de votre révision. Soit de vous faire déposer matin et soir par Julie, votre nouvelle voisine, fan d'opéra et apprentie chanteuse. Soit d'opter pour la révision Dacia et de bénéficier d'un prêt de véhicule. À vous de voir.
Rendez-vous sur Dacia.fr. Forfait réservé aux particuliers sur les véhicules Dacia de moins de 8 ans. Voir conditions sur Dacia.fr.
Beurre FM.
Beurre FM.
Votre radio.
من اللي داقك يا عسل. حياتنا جميلة غدا تشوفنا الفاميلا في قناة الجزيرة وشوف غاد زيدك دراهم ويا للفتاة الجميلة غدا تشوفنا الفاميلا في قناة الجزيرة وشوف غاد زيدك دراهم
FM, midi 13h, à votre santé, avec Philippe Robichon.
J'ai profité ce matin de l'avenue à Paris du docteur Olivier Dubois pour l'inviter. Il parle avec nous de thermalisme, voie de guérison naturelle, éditions Flammarion. Vous votre métier à vous, c'est psychiatre hein, et d'héritage familial. Eh bien, vous vous intéressez au thermalisme et la fusion des deux, ça donne une médecine, en tout cas une approche différente des troubles, de certains troubles psychiques. Le thermalisme a réputation d'alourdir beaucoup les frais de la sécurité sociale. Pourquoi est-ce que c'est une idée qui est fausse?
Oui, c'est une idée qui est fausse.
Et le déficit de la... Déjà, ça représente quoi, par exemple, en termes de remboursement de la sécurité sociale?
Ça représente 0,15% du coût de dépenses de la sécurité sociale. C'est-à-dire que si on enlève les thermalismes complètement, ça ne réglera absolument pas le problème.
On a toujours l'impression que c'est énorme, en tout cas que ça contribue beaucoup à aggraver le gouffre et le déficit.
0,15%. Voilà, c'est le chiffre absolument exact. Alors, ça serait effectivement inutile si ça n'avait aucun intérêt médical, ce qui n'est pas le cas, puisque j'espère vous avoir convaincu, du coup, sur les troubles anxieux. Ça a beaucoup d'intérêt, ça prévient des situations comme le burn-out, par exemple, qui est de plus en plus fréquent, qui est de plus en plus ennuyeux, parce que ce sont des situations qui sont souvent urgentes et qui peuvent se terminer par des suicides, comme on le voit dans certains cas. Donc, je pense qu'effectivement, si pour 450 € de remboursement, c'est social, on peut éviter, c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup moins qu'une journée d'hospitalisation en médecine ou en psychiatrie. On peut éviter un suicide, ça vaut parfois le coup de faire cette expérience-là. Non, la médecine thermale n'est pas chère. Et puis l'autre élément, c'est que la médecine thermale, comme on parlait tout à l'heure du cadre de 3 semaines, ce cadre de 3 semaines peut être un lieu qui se développe d'ailleurs aujourd'hui en France pour informer les gens sur la pathologie, pour les former à mieux se traiter, ou s'auto-traiter, pour former les familles de patients également à mieux comprendre la pathologie. Donc tout ça, ce sont des éléments qui, je dirais, montrent quand même qu'il y a aussi des intérêts secondaires dans le thermalisme, qui ne sont pas que sur l'action thérapeutique même.
Les maladies psychologiques aujourd'hui et psychiques sont-elles toujours aussi difficiles à diagnostiquer, ou le fait qu'on en parle beaucoup, finalement, fait qu'on les démasque mieux?
C'est à double tranchant, parce que je dirais que Internet nous fait du mal quand même, parce que les gens arrivent avec des certitudes diagnostiques.
Oui, sur la fibro, pour moi, c'est pile poil le genre de maladie où le fait d'en parler sur Internet, qu'il y ait des forums, il y a beaucoup de gens qui subitement disent « Ah oui, j'ai une fibro ».
Oui, la bipolarité, tous les gens sont bipolaires, tous, parce qu'on est tous, on a tous des jours où on est plus en forme que d'autres. Donc... La limite est vraiment d'ordre médical. Et le diagnostic doit être fait par un médecin et souvent un spécialiste, parce que même le généraliste peut s'y tromper. Donc effectivement, il y a des pièges. Encore une fois, si on reprend par exemple le trouble anxieux, c'est cette notion de handicap et de durée de 6 mois qui est absolument nécessaire pour considérer qu'il y a une pathologie. Sinon, tout le monde est anxieux. C'est tout à fait banal.
Bon, longtemps, votre activité thermale est restée un secret honteux pour vous. Qu'est-ce qui vous a fait sortir du bois?
C'est le cas de le dire. Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès.
Écoutez, monsieur Dubois, venez me voir au cabinet.
Excusez-moi.
Je vous ferai un tarif de groupe.
Excusez-moi. Simplement, non, ce qui m'a fait sortir de ce chemin, c'est que, oui, je ne voulais pas faire de médecine thermale quand j'étais, je suis arrivé dans mon lieu historique familial à Saujon. Et en réalité, parce que je n'avais pas entendu parler de médecine thermale durant ma carrière. Et ce qui m'a fait sortir de cette situation, c'est que c'est mes patients qui m'ont vraiment fait comprendre qu'il se passait des choses. Et comme je les avais remarqué dans mes études que personne n'en parlait, je me suis dit, vraiment, là, je peux être une source d'information intéressante, à la fois pour mes confrères, mais aussi pour les patients, parce que c'est une voie thérapeutique, une alternative thérapeutique. Si vous voulez, aujourd'hui, très schématiquement, vous avez deux grandes dimensions thérapeutiques qui sont reconnues dans ces troubles anxieux, qui sont en croissance terrible. C'est les médicaments, avec les problèmes que ça pose, notamment les problèmes de dépendance et de consommation chronique. Et puis, la psychothérapie.
La parole.
La parole. Mais là encore, le problème aussi, c'est qu'on n'a pas toujours l'accès à des psychothérapeutes en temps voulu, puis ça coûte un peu d'argent, et puis ça ne guérit pas tout. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas sensibles à ça, etc. Donc, c'est une troisième voie qui est totalement différente, qui s'inscrit entre l'hôpital et l'ambulatoire, et la médecine de ville, qui s'inscrit entre la médecine générale et la psychiatrie un peu lourde. Voilà. Et c'est tout à fait adapté à cette pathologie, je dirais, environnante, de l'épuisement, du stress quotidien, etc.
Et si je vous dis que, au psychiatre que vous êtes, que c'est la psychiatrie qui s'occupe du psychisme et pas le thermalisme, vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Oui, bah, moi je suis avant tout psychiatre et je suis beaucoup plus... Non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous pour dire que on fait de la psychiatrie, justement, à Saujon. Et je pense que c'est ce qui nous différencie des autres stations thermales. Très honnêtement, hein, on fait de la médecine d'abord.
C'est votre spécialité, c'est ça, vous.
C'est une spécialité. On fait de la médecine, c'est-à-dire que nous, moi je suis médecin, je suis directeur d'établissement, donc j'ai mis une cadre de santé dans la direction des thermes, c'est pas rien. Une cadre de santé, un soignant à la direction des thermes, au lieu de mettre un directeur habituel. C'est un choix stratégique, parce que je crois à la médecine et je suis psychiatre, évidemment. Et on fait de l'institutionnel à fond dans notre station thermale. On fait l'école thermale du stress. Tout ça, c'est pas du hasard. On fait de la recherche, on fait de l'évaluation systématique. Donc on a effectivement une démarche très, très médicale. Donc effectivement, on fait de la psychiatrie beaucoup plus presque que du thermalisme. Mais ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que...
Il y a un terme, hein, c'est la thermapsie.
Oui, psychothermalisme.
Oui, voilà, ouais.
Du psychothermalisme. Mais c'est un mot que j'aimerais bien. Mais honnêtement, le thermalisme, il y a vraiment une action thérapeutique de l'eau que j'ai découvert et qui est très impressionnante et qui est très, très intéressante. Il y a sans doute du symbolisme. Hein. On sait que l'eau, c'est l'endroit où on a commencé à vivre, hein, dans le fœtus de notre maman. Eh bien, on était baigné dans l'eau de notre fœtus, dans les bains maternels que nous avons reçus de notre mère en particulier. On a des souvenirs évidemment très, très ancrés qui ressortent sans doute, et qui font que l'eau est un acteur de confiance et quelque chose qui nous aide à rentrer, à se laisser aller. Il y a sans doute effectivement l'aspect de préparation, voyage thermal qui induit tout ça. Mais enfin, il n'empêche que quand vous arrivez dans votre baignoire, quand vous arrivez dans votre jacuzzi, quand vous arrivez dans votre piscine, eh bien, quand vous arrivez dans cette eau, vous arrivez à lâcher prise. Et finalement, vous vous apercevez que c'est ça qui marche. Vous savez, ce qui se passe dans notre vie quotidienne,
oui.
Vous comme moi, eh bien, on a un peu de stress. Et puis ce stress, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on va mal dormir. Et puis, on va finir par être très angoissé. Et puis, on va finir par avoir un peu d'épuisement. On va finir par ne plus dormir la nuit. On va finir par être irritable. On va finir par travailler moins bien. On va finir par être moins performant et avoir un avertissement au travail. Et par déprimer. Peut-être même s'alcooliser. Donc on voit le cercle vicieux de la vie, de celui qui est qui rentre dans l'état de maladie.
Même si le stress est normal. Hein.
Même si le stress au départ est normal. Mais dans qu'est-ce qui se passe en cure thermale? Il se passe que la personne se met tout d'un coup à dormir, se met ensuite à être un peu moins angoissée. Peut-être d'ailleurs avant, à mon avis, elle est d'abord moins angoissée. Ensuite, elle dort mieux. Après, elle commence à se sentir un peu moins fatiguée. Elle est fatiguée au départ, mais pas la même fatigue, comme ils nous disent. Après, elle se sent de moins en moins fatiguée. Elle retrouve de l'énergie, elle retrouve de l'envie, elle retrouve de l'espoir. Et c'est un peu, vous savez, comme le morceau de sucre qui tombe et qui fait tomber le morceau de sucre. Après, petit à petit, tous les morceaux
de sucre. L'effet
domino. Ouais, exactement, l'effet domino.
Qu'est-ce que vous avez compris du mode d'action de l'eau sur notre psyché?
C'est une question complexe, à laquelle on n'a pas une réponse absolument ferme, mais il y a quand même des éléments très intéressants. Il y a aujourd'hui quand même la démonstration que la balnéothérapie agit sur les endorphines. Vous savez qu'on a dans le cerveau des endorphines. Les endorphines, c'est de la morphine. C'est des opioïdes endogènes qui sont fabriqués par notre cerveau. Mmh. Eh bien, cette stimulation cérébrale est associée à une augmentation du taux d'endorphine dans notre sang, vous faites des prises de sang et vous apercevez que votre taux d'endorphine a augmenté. Mm-hmm. Donc il y a une stimulation du système cérébral et donc de la sécrétion d'endorphines qui sont très efficaces pour lutter contre la fatigue, pour lutter contre la douleur et pour lutter contre la baisse de morale. Donc il y a là une explication intéressante. Il faut savoir aussi qu'il y a des cellules de la peau qui ont une action directe quand elles sont stimulées sur le système neuro-endocrinien et en particulier sur la sécrétion d'ACTH et de surrénal. Eh bien, on s'aperçoit effectivement qu'il y a une action directe sur le système de stimulation de l'hormone anti-stress. Donc il y a sans doute plusieurs voies d'action, il y en a d'autres. Hein. Sur la douleur, on pense aussi qu'il y a, vous savez, quand on... Une des voies d'information qui peut permettre de faire cesser la douleur, c'est la fermeture, ce qu'on appelle le système du gate control, la porte de contrôle de l'information douloureuse. Quand elle se ferme, l'information douloureuse disparaît. On peut imaginer que la stimulation...
Donc ça veut dire qu'on a mal, mais on ne le ressent pas.
Oui, c'est ça. Mmh. La douleur n'est plus ressentie,
elle
est calmée.
On est insensible, voilà.
Voilà. Mmh. Et donc on peut imaginer que là aussi, l'action balnéothérapie vienne désensibiliser la douleur.
Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on devient complètement insensible et donc on laisse passer les signaux.
Voilà, exactement. On devient beaucoup plus résistant.
Mmh. Bah, de toute façon, la plupart des gens encaissent tous les jours.
C'est vrai.
Sans s'en rendre compte, finalement.
C'est vrai.
Qu'est-ce qui se passe quand vous encaissez tous les jours, par exemple, dans votre vie professionnelle, dans votre vie de tous les jours, et que ça déborde?
Eh bien, il se passe que vous commencez à être irritable, à devenir un peu agressif, à être peut-être plus angoissé, pas forcément d'ailleurs, à avoir des coups de pompe, avoir moins d'envie. Vous savez, le burn-out, c'est souvent ça. C'est des gens qui perdent la confiance, qui perdent l'envie, qui sont plus motivés, qui n'ont plus d'âme. Mmh. Ils se ressentent plus grand-chose. Et les gens vous disent, il a changé. Et avant, il faisait son tennis ou il faisait sa partie de bridge. Et puis là, tout d'un coup, il en fait moins, il va moins vers les copains, etc. Donc il y a un comportement qui se modifie et qui, dans le comportement, dans le caractère, et qui est une traduction régulière.
Et soi-même, on s'en rend compte ?
Pas toujours. Vous savez, prenons le cas du burn-out. Le burn-out, par exemple, c'est un glissement. C'est un glissement qui est assez permanent. Et la personne, finalement, a le sentiment que ce qu'elle vit est normal, que c'est l'aboutissement normal de ce qu'est sa vie actuellement. Et en fait, quand il finit par tomber dans un certain désespoir, un certain désarroi, eh bien, il se dit de toutes les façons, j'ai pas de solution, je m'en sortirai pas, puisque ma situation est comme ça. Il ne sent plus d'énergie pour se battre. Il pense que c'est normal, que c'est naturel, et bien souvent, il n'a pas conscience qu'il est tombé dans un état de pathologie. C'est très important de le dire, ce que vous me faites remarquer là, c'est qu'effectivement, il faut que les gens sachent, que l'entourage sache que quand quelqu'un comme ça commence un peu à tomber, il faut prévenir, il faut en parler, parce que c'est inquiétant.
Oui, et puis encore une fois, le rôle de l'entourage, de l'entourage dans toutes les maladies dont on a parlé, est primordial.
Primordial.
Dans son comportement et dans la façon d'alerter.
Absolument. Hein, absolument.
Et de ne pas dénoncer, de ne pas nier, de ne pas juger surtout. Hein.
Absolument, il y a un repérage. Le malade est pris, si vous voulez, le malade, il est pris dans un espèce d'étau, il est pris dans un espèce de filet. Vous voyez, c'est quelque chose qui se referme sur lui sans qu'il puisse bien comprendre comment on peut se débattre, comment on peut en sortir. Il est plein de culpabilité, il ne comprend pas grand-chose à ce qui lui arrive. Si c'est la première fois que ça lui arrive, il ne comprend pas ce qui lui arrive, comment tout ça s'est mis en place, pourquoi il en est là. Et il s'en veut. Et il perd un peu espoir. Et quand il commence à perdre espoir, le danger est réel.
Le psychothermalisme, donc, comme alternative, comme outil de soins, comment on fait pour choisir un médecin qui vous oriente vers ça, finalement ?
Ah, c'est une question complexe.
Parce que... Peut-être qu'une grande partie des médecins aujourd'hui continueront à vous médicamenter, peut-être.
Oui, c'est une très très bonne question, parce que réellement c'est un problème. Vous allez tomber sur plusieurs types de médecins. Il y a celui qui vous dira qu'il n'y croit pas, qu'il ne connaît pas, qu'il ne voit pas pourquoi, que voilà, enfin ça peut exister. Il y en a peu, je pense, quand même, de moins en moins, mais il y en a certainement. Et vous tombez sur un médecin qui vous dit je ne connais pas et pourquoi pas, et ça, ça ne posera pas de problème. Et puis il y a des médecins qui vous diront c'est une très bonne idée, je n'osais pas vous le dire, ou j'ai entendu parler de ça, ça me paraît une très bonne idée. Celui qui n'y croit pas ou qui est plutôt hostile, je pense qu'effectivement, il faut d'abord, nous, on peut lui apporter des éléments d'information, il faut le savoir. On a aujourd'hui, il y a ce livre, mais il y a d'autres documents. Moi, j'ai pas mal de documents. On a des études scientifiques publiées dans des revues américaines. Ça peut quand même convaincre des médecins. On peut également le contacter pour lui en parler, parce que je crois que c'est important que les gens aient toutes les chances à disposition pour se traiter de leur maladie, bien évidemment, et par des moyens qui plus est naturels et qui évitent justement cette consommation chronique de médicaments dont on connaît les dangers.
Et on peut choisir donc de venir de façon libre.
Absolument, bien sûr, on peut aller dans la station qu'on veut, hein, d'ailleurs, dès lors qu'on est dans l'orientation choisie.
Donc là, à ce moment-là, faut accepter d'en payer le coût, quoi.
Oui, oui, il y a le déplacement, évidemment, il y a le déplacement, mais il y a quand même une prise en charge sécurité sociale pour les soins thermaux et le supplément qui est généralement pris en charge par la complémentaire santé.
Quel regard le psychiatre que vous êtes porte-t-il sur les huiles essentielles et les plantes aujourd'hui pour réguler l'humeur ?
Il y a quand même des éléments intéressants. Je pense que le millepertuis a quand même bien démontré son action dans la dépression.
On en est où dans l'utilisation et de la vente du millepertuis aujourd'hui en France ?
Ah, ça se pratique encore. Il y a une prescription qui est encore régulière et qui se développe peut-être même un petit peu, hein, je crois. Il y a des études qui ont démontré une efficacité du millepertuis dans la dépression, dans les dépressions moyennes, enfin modérées, pas sévères, hein, légères à modérées. Dans les troubles anxieux également, il y a quand même une action qui n'est pas inintéressante. D'autres produits également phytothérapiques se sont montrés intéressants. Je connais moins les huiles essentielles, mais sur des produits phytothérapiques, on a des résultats quand même. Sur le sommeil, l'anxiété et la dépression, mais la dépression essentiellement lui pertuit.
Bien, la suite, et pour tous ceux que la thématique intéresse, et notamment si vous voulez avoir plus d'informations sur ce psychothermalisme que nous avons évoqué ce matin, vous pouvez lire Thermalisme, voie de guérison naturelle, stress, sommeil, fatigue, dépression, burn-out, une alternative aux médicaments, aux éditions Flammarion. Le docteur Olivier Dubois était notre invité ce matin. Merci de vous être arrêté sur Beurre FM.
Merci beaucoup à vous.